Partez à la découverte des recherches faites en français à l'Université de Regina en Saskatchewan avec votre hôte Ousmane Ilbo-Mahaman. Ce balado vous est offert par la Cité universitaire francophone en collaboration avec la Coopérative des publications françaises-croises et la radio communautaire Prairie FM.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au deuxième épisode sur les recherches en français faites à l'Université de Regina en Saskatchewan. Quelle réalité de l'agriculture dans l'Ouest canadien? Je suis aujourd'hui avec André Magnan, professeur agrégé de sociologie et d'études sociales à la Cité universitaire francophone de l'Université de Regina. Nous allons parler de la concentration des terres agricoles au Canada et notamment dans les prairies où les petites et moyennes exploitations familiales représentent les principales unités de production alimentaire. Bonjour André.
Oui, bonjour.
Alors André, il y a quelques années, la plus grande terre agricole du Canada fut mise en vente pour 56 millions de dollars au Manitoba. Quelle lecture avez-vous faite de cette situation à l'époque?
Eh bien, c'était assez étonnant comme situation, parce que c'est vraiment, qu'on sache, la plus grande terre qui a été mise en vente au Canada, du moins dans les dernières décennies. Donc, il y a eu des réactions dans les médias, évidemment. Mm-hmm. Et moi, je m'intéresse depuis quelques années au phénomène de la concentration des terres agricoles dans l'Ouest canadien. Donc, c'était vraiment intéressant pour moi, évidemment, aussi, comme situation. Donc, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le fait que on peut aujourd'hui constater que de plus en plus, il va y avoir des très grandes terres mises à vendre dans le marché foncier de l'Ouest. 56 millions de dollars, c'est super cher là comme prix, évidemment. Donc, à mon avis, on atteint un niveau là où ce ne serait pas vraiment des agriculteurs familiales qui viendraient acheter ces terres-là, mais ce serait plutôt à l'échelle d'investisseurs, à l'échelle de grandes sociétés. Je dirais que c'est vraiment il y a une évolution assez importante là dans le marché foncier. Il y a une évolution évidemment dans le secteur agricole de façon globale.
Quelles sont les provinces dans lesquelles la concentration des terres agricoles est la plus importante?
Je dirais dans les provinces de l'Ouest, c'est là où on retrouve les exploitations les plus grandes. Ça a beaucoup à faire avec le mode de production que nous avons dans l'Ouest. C'est surtout les céréales, le blé, le canola et d'autres semences. Donc, c'est un mode de production qui s'apprête à des grandes superficies. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment dans ces provinces-là où on constate ce phénomène de concentration. Mais je dirais qu'en Saskatchewan, le phénomène est plus avancé qu'au Manitoba et en Alberta. Mais il ne faut pas oublier que c'est au Manitoba qu'on a vu cette terre de 56 millions de dollars mise sur le marché.
Aujourd'hui, il y a un phénomène d'achat des terres agricoles par les investisseurs. Quelles sont les conséquences que cela peut avoir pour le secteur agricole au Canada?
Comme chercheur, c'est un phénomène qui m'intéresse depuis déjà 10 ans, un peu plus. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment exceptionnel il y a 10 ou 15 ans de voir un investisseur issu d'un autre secteur de l'économie là, acheter des terres agricoles pour des raisons d'investissement. Donc, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus en 2010 environ. Et à l'époque, comme je viens d'expliquer, c'était assez rare. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus commun. Donc, les investisseurs s'intéressent à l'agriculture pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est la situation mondiale. Du système agroalimentaire. Donc, on se dit avec il y a une population croissante mondiale,
ouais.
la demande pour les produits agricoles ne peut qu'augmenter.
Ouais.
Donc, ça, c'est vendeur là, pour les investisseurs. Ils se disent le prix des terres agricoles va augmenter aussi. Mais aussi, c'est une stratégie de préservation de la richesse. Donc, certains investisseurs ont constaté que d'acheter des terres agricoles, c'est un investissement très sécuritaire. La valeur peut monter, peut baisser, mais elle n'ira pas à zéro comme dans d'autres investissements un peu plus risqués. Moi et mes collègues, on a pu constater que en Saskatchewan, aujourd'hui, les investisseurs détiennent environ 2% de la superficie des terres agricoles. Et donc, ça représente quand même une très, très grande superficie. Et dans certaines régions, la présence des investisseurs est beaucoup plus évidente. C'est un facteur qui peut vraiment augmenter la concurrence pour les terres dans certaines régions. Nous avons mené, par exemple, un sondage auprès des agriculteurs. Et ceux qui disent que oui, en fait, les investisseurs sont présents dans la région, on exprime souvent des attitudes assez négatives envers ce phénomène. Donc, les agriculteurs ne veulent pas concurrencer les grandes sociétés, les investisseurs, les fonds de pension, par exemple, pour l'achat de terres dans leur région. Ça peut faire gonfler les prix.
Mm-hmm.
Aussi, on trouve que lorsque ces terres sont achetées par des investisseurs, il est probable qu'on ne pourra pas les racheter pour des décennies parce que souvent, ces investisseurs s'intéressent à être propriétaires sur le plan de quelques décennies. Vraiment, c'est une question d'accès aux terres, c'est une question de prix des terres dans la région, de concurrence.
Quel impact peut avoir la concentration des terres de production alimentaire sur les jeunes agriculteurs, sur la sécurité du système alimentaire, sur les changements climatiques et aussi sur la démocratie?
Les enjeux pour les jeunes agriculteurs, c'est cette question de la relève agricole, évidemment. Lorsqu'on est jeune agriculteur, on n'a pas nécessairement les moyens d'acheter une très grande terre pour se lancer en agriculture. Et donc, si la taille moyenne des exploitations continue toujours à augmenter, ça devient de plus en plus difficile parce que là, on parle d'un investissement pour débuter là de quelques millions de dollars. Donc, c'est pas évident les jeunes agriculteurs
et cet argent,
auront les moyens de se lancer en agriculture. À moins qu'ils soient en mesure d'hériter des terres de la génération précédente. Si on veut un système agroalimentaire sain et démocratique, il faut une plus grande répartition des ressources productives du secteur. Donc, c'est un peu comme les enjeux dans d'autres secteurs de l'économie. Là où il y a une grande inégalité, ça peut causer des problèmes économiques, évidemment. Donc, c'est une question d'inégalité. Et à mon avis aussi, lorsqu'il y a de moins en moins d'exploitations qui sont de plus en plus grandes, là, il y a des risques de faillite, par exemple, pour les très grandes exploitations. Je crois qu'un secteur agricole plus diversifié, avec un plus grand nombre d'agriculteurs, avec des agriculteurs issus de différents secteurs, disons, serait plus stable et plus durable. Ça, il y a toujours des enjeux environnementaux lorsqu'on parle du secteur agricole.
Mm-hmm.
Donc, une des inquiétudes, c'est que lorsque la taille des exploitations ne cesse de grandir, de croître. On peut poser des questions, je pense, autour des pratiques agronomiques saines, des pratiques écologiques. Donc, lorsque les terres sont un peu plus petites et lorsque le tout est géré par une entreprise familiale, on peut imaginer, je pense, que ces gens-là peuvent se soucier de toutes sortes de questions écologiques, l'entretien de l'habitat, par exemple, pour la biodiversité et d'autres pratiques saines. Mais lorsque les exploitations sont super grandes, là, la question de la gestion, de la bonne gestion écologique du sol, c'est pas garanti. Je pense qu'il y a toujours des recherches à faire dans ce domaine-là. Ma perspective, c'est que comme dans d'autres secteurs de l'économie, là où il y a une extrême concentration des ressources, ça pose un enjeu pour la démocratie. On ne voudrait pas qu'il y ait monopole, par exemple, dans n'importe quel secteur de l'économie. Si les tendances continuent, comme par le passé récent, est-ce qu'on va arriver à un moment où le nombre d'exploitations est radicalement diminué et où toutes ces ressources et ces terres sont entre les mains de petits groupes. C'est ça vraiment la question de démocratie, je pense.
André, en Saskatchewan, comment sont organisés et exécutés les contrôles et l'exploitation des terres agricoles?
Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, vraiment très peu de contrôle sur cette question du foncier, mais je peux citer quelques règlements qui sont importants. Donc, on interdit, par exemple, les non-Canadiens, c'est-à-dire les non-citoyens, les gens qui n'auraient pas une résidence permanente au Canada, d'acheter des terres agricoles. Donc, lorsqu'on parle d'investisseurs qui achètent des terres, ce sont des Canadiens ou des résidents permanents du Canada qui le font. Dans certaines circonstances, ce sont des sociétés. Mais on a également interdit en 2015 aux fonds de pension et aux sociétés avec plus de 10 actionnaires d'acheter des terres agricoles. Donc, dans ce sens-là, le gouvernement a imposé des lois pour empêcher, disons, un accaparement des terres par des étrangers, des non-Canadiens. Mais à part ça, il y a vraiment très très peu de règlements ou de lois qui limitent la concentration des terres. Donc, si on est agriculteur, si on est Canadien, on peut acheter, il n'y a aucune limite, disons, sur la grandeur des exploitations et sur la grandeur ou le nombre d'hectares qu'on peut détenir. Donc, pour vous donner un exemple, le propriétaire, le plus grand propriétaire de terres agricoles en Saskatchewan, c'est un homme riche qui a ramassé une fortune, disons, dans un autre secteur, qui s'appelle Robert Angelic. Lui et sa compagnie Angelic Land sont propriétaires de plus de 80 000 hectares dans la province.
Wow.
Donc, c'est ça, c'est le propriétaire le plus important. Et donc, en Saskatchewan, il y a vraiment rien qui empêche cette société, cet individu, de continuer à augmenter son portefeuille de terres. Donc, cette compagnie est propriétaire de terres dans plusieurs secteurs de la province. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on les loue à des agriculteurs de la région. Mais à mon avis, c'est quand même assez inquiétant de constater qu'une société ou vraiment une seule personne peut être propriétaire d'une tellement grande superficie. Il n'y a vraiment rien dans nos lois pour freiner ce genre de phénomène.
Mais alors, quelle différence peut-on souligner avec les autres provinces?
Bien, il y a une grande ressemblance, en fait, en Alberta, en Saskatchewan et Manitoba. Les règlements sont assez semblables. Donc, dans ces trois provinces, on interdit aux étrangers d'acheter des terres agricoles. Mais ce n'est pas le cas en Ontario. ni en Colombie-Britannique. Au Québec, il y a plus de contrôle. Mais c'est ça, comme dans des provinces comme l'Ontario, il n'y a vraiment aucune restriction sur l'achat des terres par les étrangers. Donc, on peut constater que oui, il y a des investisseurs étrangers qui vont acheter des terres dans ces provinces-là, comme les provinces comme la Colombie-Britannique et l'Ontario. Et en fait, dans d'autres pays, c'est un phénomène qu'on peut constater également. C'est un phénomène international, à moins que les gouvernements imposent des lois pour freiner le phénomène. Moi, je crois que si demain on enlevait tous ces règlements, on verrait très rapidement des investisseurs étrangers s'intéresser aux terres agricoles en Saskatchewan.
On vient de souligner plusieurs choses, notamment le nombre d'agriculteurs qui diminue, l'expansion de la taille des exploitations et puis l'inégalité croissante des revenus agricoles et la concentration des terres. Alors, quels sont les effets que cela peut avoir sur le pays?
Eh bien, c'est ça, on s'intéresse beaucoup à ça comme chercheur. Quels sont les impacts sur le terrain, dans les communautés, dans les régions? Lorsqu'on a mené un sondage auprès des agriculteurs, c'est l'impact le plus important, c'est vraiment la dépopulation des régions et des villages. Donc, ça, c'est pas nouveau, évidemment. Ça fait depuis quelques décennies que la taille des exploitations augmente, que le nombre d'agriculteurs diminue. Et ce que les gens constatent dans les régions, c'est que, bien, évidemment, il y a moins de familles, les villages disparaissent. Et lorsqu'il y a moins de monde dans la région, ça veut dire que les autres entreprises, l'activité économique diminue également. Donc, c'est un peu un cercle vicieux parce que avec le départ des familles, des régions, ça devient peut-être moins attrayant pour les autres ou pour les gens qui sont toujours là. Par exemple, dans notre sondage, il y a un agriculteur qui a commenté que il y a 20 ou 30 ans, il y avait peut-être 8 ou 9 familles autour de lui, dans son voisinage, là, dans son petit coin de la région. Aujourd'hui, il en restait un ou deux. Donc, c'est vraiment cette disparition de la population. Et ça peut avoir un impact sur la communauté, mais aussi sur le paysage. Donc, on se promène en campagne et on voit beaucoup moins de maisons. C'est vraiment, c'est des espaces vides, quoi. Donc, pour ceux qui sont toujours là en région, c'est un peu décourageant de voir ça.
Pour clôturer cet épisode, André, quelles sont donc, dans de telles circonstances, les mesures politiques appropriées à prendre?
Bien, je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour des politiques publiques pour freiner ce genre de phénomène. D'abord, je pense qu'il faut trouver des moyens de vraiment appuyer la relève agricole et les jeunes agriculteurs. On pourrait imaginer, par exemple, des subventions ou d'autres appuis financiers pour les jeunes agriculteurs, pour qu'ils puissent s'installer. Et je pense aussi on pourrait favoriser des mesures, disons, ou des gestes pour encourager, par exemple, les nouveaux arrivants à se lancer en agriculture ou des gens qui ne sont pas nécessairement issus de l'agriculture, de se lancer dans l'industrie aussi. Donc, de l'autre côté, je pense qu'on pourrait imposer d'autres règlements pour freiner un peu ce phénomène de concentration. Je sais que dans certaines provinces, comme l'île du Prince-Édouard, on a imposé une limite sur la superficie des exploitations. Donc, c'est peut-être un peu controversé. Et en Saskatchewan, je ne sais pas si ce genre de règlement aurait l'appui des agriculteurs. Mais est-ce qu'à un moment donné, on veut interdire une accumulation extrême, disons, des terres? C'est le genre de politique publique, je pense qu'on devrait au moins discuter. Est-ce qu'on peut imposer une limite à la superficie des terres qui sont détenues par certains investisseurs? Est-ce qu'on peut trouver un moyen d'avoir des impôts sur ce genre d'investissement? Ou peut-être pour les investisseurs qui n'exploitent pas les terres, mais qui les achètent plutôt pour des raisons financières ou spéculatives.
Merci beaucoup, André Magnan. Et je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que vous êtes professeur agrégé de sociologie et d'études sociales à la Cité universitaire francophone de l'Université de Regina.
Merci à vous.
Vous pourrez retrouver tous les épisodes de cette série sur le site lacité.uregina.ca.